Glow of Rockstar. Ah, ok.
Yeah.
Ok. Voilà, donc petite mise au point logistique. Alors, merci. Donc merci de venir donc pour cet entretien avec Andri Snær Magnason, qui est un auteur islandais. Nous avons la chance d'avoir également avec nous, évidemment, parce que eh bien Andri parle l'anglais, certes, mais surtout l'islandais, enfin, peut-être pour communiquer. Donc Eric Bourri, pardon, qui est son traducteur, mais qui est également un des rares traducteurs d'islandais en France. Enfin, je sais que vous êtes plusieurs, hein, au moins deux, trois, mais vous êtes quand même le
traducteur. On est une espèce pas nombreuse.
Voilà, exactement. Et donc, évidemment, eh bien, aux éditions Zuma, vous avez ici l'édition originale. Donc, Andri Snær Magnason a fait paraître donc, son roman Love Star, qui, vous voyez, en tant que spécialiste de science-fiction, me semble être vraiment alors, un roman d'anticipation, un roman dystopique de première importance donc, dans l'histoire, justement, de l'anticipation et de la science-fiction. Il faut que Eric me rappelle de ne pas parler trop vite de temps. Voilà, l'essentiel. D'accord. Voilà, donc on va faire d'abord une présentation donc, de l'auteur. Et ensuite, à sa demande, eh bien, Andri va nous lire donc, une poésie hein, de sa création. Et une poésie en islandais. Voilà, et une poésie en islandais. Donc vous allez entendre donc, cette langue que nous n'entendons quand même pas très souvent. Donc Andri Snær Magnason est né à Reykjavik en 1973. C'est un poète, dramaturge, essayiste, novelliste, remarqué très tôt, et qui est également l'auteur d'un livre pour la jeunesse, on y reviendra un petit peu après, Les enfants de la planète bleue, qui a été publié chez Gallimard donc en 2003, et il a été traduit en 26 langues. Donc ce premier écrit a quand même eu une importance internationale. Love Star est son premier roman d'anticipation, qui a obtenu l'année dernière le Grand Prix de l'Imaginaire, catégorie roman étranger, donc en 2016. Et pour ma part, c'est là où j'ai vu Andri la première fois, où j'ai rencontré à Saint-Malo. Il réalise en 2010 un documentaire très remarqué, Dreamland, d'après l'ouvrage du même nom, où il traite de la crise écologique et financière donc en Islande, dénonçant la destruction massive de la nature via la mise en place de barrages et l'épuisement des réserves d'aluminium par des entreprises privées. Donc tout ceci, on va le retrouver également évidemment dans son roman Love Star. Il est vice-président de l'Union des écrivains islandais et membre de la Maison de la Culture de Reykjavik, et il est très actif dans la lutte contre la destruction des Highlands islandais. Donc vous l'avez compris, Andri, c'est non seulement, je pense, un futur très grand auteur de science-fiction, mais c'est également quelqu'un qui est très engagé pour son pays, peut-être pas politiquement, il va nous parler de ça un petit peu plus tard, mais en tout cas, au moins pour la défense donc, de l'environnement. Voilà, donc Andri, je vous laisse pour lire ce poème.
Þetta er ljóð úr einn af mínum fyrstu bókum.
Le poème que je vais vous lire est extrait d'un de mes premiers livres.
Þetta er ljóðabók sem að gerist í Bónus supermarkaði á Íslandi.
Tout le recueil de poèmes en fait a lieu dans le supermarché Bónus en Islande.
Byggt á guðdómlegum gleðileik Dantesar.
Et la structure, en fait, est basée sur la Divine Comédie de Dante. Et donc, on commence au paradis. Et le paradis, chez Bónus, c'est le rayon fruits et légumes. Puis ensuite, le livre va en enfer, c'est-à-dire le rayon viande. Et on termine au purgatoire, c'est-à-dire dans les produits ménagers.
Avi var 70% vatn. Avi var 70% lækurinn sem rann niður fjallið fram í húsinu. Hann var 30% silungurinn í læknum, rjúpan í lyngin og lömpin í grasinu sem bylgjaðist í vindinum kringum húsið. Ég ekki 70% vatn. Í mesta lagi 17% sódavatn, hitt blanda af Diet Coke og kaffi. Ég ítalskt pasta og kínversk krískrún, ég dönsk skinka og suðurafrískur ananas, æðar mér rennur amerísk tómatsósa. Þú ert það sem ég getur, ég smækkuð mynd af heiminum, ég smækkuð mynd af Bónus.
On est ce que l'on mange. Mon grand-père était à 70% eau. Il était à 70% le ruisseau qui longeait la maison descendant des montagnes. Il était à 30% la truite dans le ruisseau, la perdrix dans la bruyère et les agneaux dans les herbages qui ondulaient au vent autour de la maison. Je ne suis pas à 70% eau. Tout au plus, 17% d'eau minérale gazeuse. Le reste est un mélange de coca light et de café. Je suis pâte italienne et riz chinois. Je suis jambon danois et ananas sud-africain. Dans mes veines coule du ketchup américain. On est ce que l'on mange. Je suis un monde en miniature. Je suis un bonus en miniature.
Alors, si vous voulez connaître donc la poésie, en fait, c'est une édition. Alors, c'est aux éditions d'en bas. Donc, ça s'appelle Poème. Alors, c'est Poème de supermarché. Et donc, c'est une édition bilingue. Donc, une partie islandais et une partie évidemment en français. Donc, c'est vraiment vraiment intéressant. Et on retrouve justement, Andri, vos thématiques principales dans ce recueil.
Það er þarna goðafræði markaðurinn. Það er þarna það er leikur að veruleikanum að snúa við að snúa sjálfstæðum hlutum á rönguna. Goðafræði markaðurinn. Og snúa hina hversdagslega á rönguna.
On est dans la mythologie du marché, c'est-à-dire c'est un marché mythologique et on est aussi dans le retournement de la réalité quotidienne ou dans une espèce de retournement de la réalité quotidienne ou inversion de la réalité quotidienne.
Oui, donc on est dans un écrit presque enfin poétique et philosophique.
Já, svona og svona einhver leiti ádeila og einhver leiti hugsjón að allt rými sem að við kom nærri þurfi að hafa einhvers konar listræna vítt.
Et oui, il y a aussi un côté peut-être un peu polémique et
svona hugsjón
et idéaliste dans ce poème. Dans ce recueil de poèmes, excusez-moi.
D'accord. Alors nous allons passer après la poésie qui finalement nous donne une idée différente de ce que peut être donc l'auteur Andri Magnason. Je vais vous parler un petit peu de Love Star, sans évidemment dévoiler bien sûr la fin du roman, mais vous donner quand même quelques éléments pour que vous compreniez bien l'importance justement de ce récit. Donc en fait, ce roman drôle, inventif, narre la découverte par le dénommé Love Star, qui est le personnage principal donc, du livre, et son équipe scientifique, donc découverte de la transmission des données via les ondes des oiseaux. Et dans la foulée, eh bien, cette découverte va permettre la naissance de l'homme moderne sans fil. C'est-à-dire qu'en fait, on introduira... je pense via une puce, il me semble, dans la tête des gens, eh bien, un flux quasi continu de données commerciales, publicitaires, d'informations. Ces connexions invisibles ouvrent la boîte de Pandore, la consommation et la publicité envahissent littéralement les corps et le bonheur de tous est exigé, comme dans toute bonne dystopie, notamment grâce au calcul de l'âme sœur. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Et les morts sont catapultés dans les cieux. Le libre arbitre est aboli et plus rien ne peut arrêter les nouvelles idées. Le personnage de Love Star s'est lancé dans la quête ultime. Découvrir où vont les prières de l'humanité qui, bien que prise en main, reste en proie au doute. Mais c'est sans compter, sans deux facteurs, le hasard et la chance. Au moment où commence le récit, il reste à peine 4 heures à vivre à Lovestar, réfugié dans son avion, plongé dans la contemplation d'une graine. Cette annonce est en fait dès le prologue. Le roman va simplement nous apprendre ce qu'est cette graine, et donc évidemment je ne dévoile rien, qui est Lovestar, pourquoi le système a failli, et nous faire rencontrer un couple extrêmement sympathique de deux jeunes gens, Indridi et Singrid, résistants de l'ère moderne, tombés amoureux avant d'être calculés et en passe d'être brisés par la machine de Lovestar. Alors Andri va nous expliquer évidemment les concepts qui sont à l'œuvre justement dans ce roman. Mais... Voilà. Andri, pouvez-vous nous dire quelles furent les lectures, les auteurs qui vous ont amené à devenir écrivain ?
Já. Ég var alltaf hrifin af ljóðum, þjóðsögum.
J'ai toujours été un grand lecteur de poésie et aussi de contes populaires.
Og síðan kynntist ég höfundum eins og Vonnegut, Bulgakov, Calvino, Borges.
Puis j'ai fait connaissance avec des auteurs comme Calvino, Bulgakov, Borges et
Ég var alltaf miklu hrifnari af höfundum með margar hugmyndir heldur en til dæmis Dostojevski sem var meira að setja fram stóra persónur.
J'ai toujours été beaucoup plus intéressé par les auteurs qui développaient ou qui mettaient beaucoup d'idées dans leurs livres que par les auteurs comme Dostoïevski qui se concentraient peut-être beaucoup plus sur la composition des personnages.
D'accord. Ég var alltaf hrifin af goðafræði, ljóðum, þjóðsögum og svona eins og Calvin og þar sem að í frekar stuttu formi gerist frekar margt og menn ná að fanga heiminn á þann hátt.
J'ai toujours beaucoup apprécié et les contes populaires et la poésie et les récits courts qui, donc, dans un espace finalement restreint, réussissent à exprimer énormément de choses.
Svo langaði mig svona í kringum 2000 þegar að öll þessi lofvörðum upplýsingatekni byltinguna fóru að byrtast okkur. Það langaði mig til að rannsaka hvert það gæti hugsanlega allt farið.
Et dans les années 2000, au début des années 2000, quand on avait l'apparition des technologies de l'information et tous ces slogans, toutes ces promesses qu'on nous faisait, comme quoi ça allait être une ouverture, etc., j'avais un peu envie d'explorer jusqu'où ça pouvait nous mener, l'humanité, en fait, jusqu'où ça pouvait mener l'humanité.
Donc, véritablement, de l'anticipation. Anticipation sur... Et est-ce que oui, est-ce que vous avez oui, est-ce que vous avez lu des auteurs d'anticipation? Je pense à Orwell, Huxley.
Ég var að hugsa ég hugsaði þá eiginlega hvernig Orwell hefði skrifað þessa tæknibyltingu.
J'ai réfléchi justement j'ai essayé d'imaginer la manière dont Orwell aurait écrit sur cette nouvelle révolution industrielle ou technologique.
Og ekki sem fasismi eða valda ofan heldur einhvers konar vefur sem við værum sjálf búin að koma okkur í.
Mais sans envisager cette révolution justement sous l'angle d'une forme de fascisme ou d'un pouvoir qui nous est supérieur, mais plus en termes de toile dans laquelle on s'empêtre nous-mêmes.
Ímyndað frelsi og hamingja.
Et où règne un supposé bonheur et une supposée liberté.
Og eiginlega að skoða markaðinn sem að því við sjáum að kirkjan, hún gat orðið að svona tyranni, kommunisminn gat orðið tyranni og hugsaði hvernig myndi markaðurinn líta út ef hann væri orðinn að alræði á, á sama hátt og, og aðra stefnur á orðið.
Bon, on sait par exemple que l'Église a eu cette propension ou cette capacité à devenir, à se transformer en tyrannie. On sait que le communisme a eu cette propension aussi à se transformer en tyrannie. Et j'avais envie d'explorer la manière dont cette société de consommation pouvait elle aussi se transformer en tyrannie.
Hvað myndi gerast þegar að markaðurinn er búinn að ná loksins öllu undir sig, ástinni, dauðanum og guði?
Et j'avais envie d'imaginer la manière dont les choses se passeraient quand le marché aurait fini par ou finirait par coloniser absolument tous les domaines de la vie, y compris la mort, l'amour et Dieu lui-même.
On y reviendra un petit peu plus tard parce que j'avais, j'avais prévu de poser une question. Ce qui est vraiment intéressant justement dans ce livre Love Star, c'est cette, cette projection à partir finalement de cette nouvelle société de surveillance qui nous attend. Autant Orwell en 1948 pour 1984 avait utilisé les techniques de l'époque, cette surveillance avec des écrans dans toutes les maisons, ce pouvoir pyramidal, autant vraiment Andri Magnasson part finalement, je dirais, de notre quotidien, c'est-à-dire à partir des téléphones, à partir de cette finalement de ce règne des images, de la publicité qui finit par nous envahir. Il rajoute juste un élément technologique qui manque, c'est-à-dire le fait que nous recevions directement ces messages via une technologie sans fil et une technologie qui passe par les ondes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que je pense que c'est possible. Voyez, même si pour l'instant il n'y a pas cette, on va dire, ce cap technologique qui a été franchi, mais c'est très exactement cela. Et c'est un roman qui est intelligent par rapport à notre présent.
Merci.
Oui. Alors, Andri, pourquoi avez-vous, je reprends votre carrière, pourquoi avez-vous choisi d'écrire un livre pour les enfants, pour démarrer peut-être votre carrière d'écrivain ?
Já, ég byrjaði reyndar með þarna einmitt ljóðum og smásögum.
En fait, j'ai commencé par écrire des poèmes et des histoires courtes, enfin, ou des nouvelles.
En ég erna, það var í kringum 99, að þá að þetta var eiginlega, já, ég geta eiginlega útskýrt að, að ég gaf út bónusljóð 96.
Voilà, en fait, je vais expliquer un peu mieux. J'ai publié les livres de bonus, les poèmes de supermarché, Bonusljóð, en
1996.
Je réfléchissais à ce que j'avais envie d'écrire ensuite.
Og ég fór að hugsa svona hvaða bækur hefði haft mest áhrif á mig bara í lífinu.
Et je me suis interrogé sur les livres qui avaient eu le plus de retentissement sur moi au cours de ma vie. Il y avait peut-être parmi ces livres qui m'ont énormément impressionné ou influencé 5 romans.
En síðan var það Astrid Lindgren, Saint-Exupéry, Momo.
Et puis il y avait Astrid Lindgren, Saint-Exupéry et Momo.
Og svona barnabækur í rauninni.
Qui étaient tous des livres pour enfants, finalement.
En sem samt einhvern veginn, maður sér aðra vitt á þessum bókum þegar maður verið síðan fullorinn.
Mais évidemment, quand on est adulte, on voit une toute autre, enfin, ces livres prennent une toute autre dimension, que ce soit Astrid Lindgren, Momo ou Le Petit Prince.
Og ég hugsaði að mér langaði til þess að skrifa, það hljómar hrokafullt kannski.
Ça semble peut-être un peu présomptueux.
En ég sagði við fjölskylduna að ég ætlaði að skrifa klassiska barnabók sem yrði endurprentið í 200 ár.
Ça semble assez présomptueux, mais j'ai dit à ma famille que j'avais envie d'écrire un livre pour enfants qui deviendra un classique et qui serait encore imprimé d'ici 200 ans.
Mais ça me semble bien parti.
Bon, là j'ai fait 16 ans hein, quand même, donc c'est déjà pas mal.
Plus de 10 ans.
Og ég hef alltaf borið mikla virðingu fyrir barnabókum og þeim heimi og ég hef aldrei séð að það sé svo mikill munur á í rauninni og ég vil erfiðar að skrifa góða barnabók.
Et en fait, j'ai toujours eu beaucoup de respect et d'admiration pour la bonne littérature enfantine ou adolescente. Et je ne pense pas du tout qu'il soit plus simple d'écrire un roman pour enfant ou pour adolescent que d'écrire un roman pour adulte.
C'est ce que nous disent tous les auteurs de littérature jeunesse aussi.
Non.
Alors, je vais revenir à Love Star parce que Love Star me semble être un roman quand même satirique. J'y ai retrouvé des petites tonalités issues de Voltaire, d'un auteur français qui s'appelle René Barjavel, mais que sans doute vous ne connaissez pas. Voilà. Je ne sais pas s'il est... Peut-être, oui, il a été traduit, je pense, en anglais. Donc, dans ce registre satirique, voilà, est-ce que vous pourriez nous expliquer le choix du titre de votre roman, mais aussi du documentaire qui s'appelle Dreamland, et donc évidemment qu'il faut lire, je pense, dans un sens inverse.
Love Star er eiginlega byggt á ljóði eiginlega stærsta ástarljóði Íslands frá 19. öld.
En fait, Love Star, l'étoile d'amour donc, provient du plus grand poème d'amour écrit en Islande au 19e siècle.
Og ég hugsaði að Og þetta svona viðkvæmt og fallegt ljóð og ofsalega ljóðrænt orð á íslensku ástarstjarna.
Ouais. C'est un poème très très lyrique en fait, qui s'appelle en islandais Ástarstjarna, c'est-à-dire l'étoile de l'amour.
En svo hugsaði hvernig myndi þetta líti út ef að markaðurinn tæki þetta? Alveg upp og það var þetta orðið bara Love Star.
Ja. Et je me suis dit comment Est-ce que ce poème, à quoi ce poème ressemblerait-il s'il était travaillé par le marché et la marchandisation, et donc Ástarstjarnan devient Love Star D'accord. en anglais parce que c'est plus cool, chic.
Oui, et ça sonne bien en tant que titre, bien sûr.
Et ça sonne bien.
International, oui, bien sûr.
International.
Et Dreamland.
Dreamland er ljóð líka.
Dreamland c'est aussi un poème.
Sem er uppáhalds ljóð afa míns.
Et c'était le poème préféré de mon grand-père.
En það vísar líka í utopíu.
Évidemment, il y a comment dire, ça renvoie aussi à une utopie, Dreamland, fatalement.
Það sem var að gerast á Íslandi var eiginlega dystopía.
Et au moment où j'ai écrit ce roman, ce documentaire en fait, Dreamland, ce qui arrivait en Islande, c'était pas une utopie, mais c'était une dystopie.
Mm-hmm. Oui, je pense qu'on va y revenir après un petit peu. Voilà. Alors, vous dénoncez dans Love Star la mercantilisation, c'est-à-dire le fait évidemment de mettre en marchandisation, en commerce, les deux derniers domaines peut-être qui échappent à l'informatique et au commerce, la mort et l'amour. Dans le roman, Love Star a une idée assez extraordinaire qui est en fait de, je dirais, vaporiser donc les cadavres de personnes décédées dans l'atmosphère et le tout, si vous voulez, sous la forme d'une gigantesque fête pour la famille dans un parc d'attractions. Donc ça résout deux problèmes, enfin un problème on va dire, et peut-être finalement cette notion de mercantilisation, c'est-à-dire que non seulement cela rapporte de l'argent à l'entreprise, mais que d'autre part finalement ça permet de détruire définitivement les corps humains. Et donc il y a, si vous voulez, ici une destruction finalement de la chair et du corps et de l'humain. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose qui est tout à fait novateur comme idée. Et la deuxième partie, on va dire, de l'entreprise de Lovestar, ça s'appelle donc In Love. Et en réalité, on calcule, si vous voulez, comment finalement est-ce que deux personnes peuvent arriver à trouver leur âme sœur via les statistiques. Vous voyez ? Alors évidemment, Mythic, le fameux site de rencontre, n'en est pas encore là, très loin de là. Mais vous voyez, c'est la mainmise en fait de l'entreprise privée sur la mort et sur l'amour. Voilà, j'explique pour le public en même temps. Donc comment cette idée de Love More et de In Love, ou comment ces deux idées vous sont-elles venues ? Oui, par l'observation du réel, peut-être.
Með bylgjurnar þá var ég þá vegum bæ fyrir norðan á Íslandi.
Ja. Nous la famille on a une ferme dans le nord de l'Islande.
Og þar er uppáhaldsfuglinn minn sem heitir kría.
Et là-bas, il y a mon oiseau préféré qui s'appelle en islandais la kría, la sterne arctique.
Og hann klekst úr hreiðri og mánuði síðar flýgur hann til Suður-Afríku.
Cet oiseau, il sort de son nid et un mois plus tard, il prend la direction de l'Afrique du Sud. Ce qui représente quand même un voyage d'environ 20 000 kilomètres.
Og ég spurði fólk hvernig ratar hann, hvernig... Hvernig veit fugl sem er nýfæddur hvernig að komast til Suður-Afríku?
J'ai demandé autour de moi mais comment c'est possible enfin comment est-ce qu'il se débrouille pour trouver la route? Comment un oiseau âgé d'un mois est capable de trouver la route depuis l'Islande jusqu'à l'Afrique du Sud?
Og þessi bara ég veit það ekki.
Et tout le monde me disait ben moi j'en sais rien.
Þannig hugsa að kannski er til einhverjar bylgjur eða einhver fyrirbæri sem við erum ekki búin að greina ennþá.
Et donc je me suis dit, il y a peut-être là un phénomène, il y a peut-être des ondes qu'on n'a pas encore décelées, mais qui existent et qui permettent à cet oiseau de rejoindre sa destination.
Þannig að kannski getum við notað þessa tækni einhvern veginn í framtíðinni til að flytja gögn eða senda hluti.
Et peut-être que et je me suis dit aussi que peut-être que si le jour où on découvrira cette technique ou cette technologie, ces ondes, ça nous rendra peut-être capable d'envoyer comme ça des objets d'un point à l'autre de la Terre.
Og síðan voru svanir sem að voru á tjörninni.
Et sur le lac à côté de la ferme, il y avait des cygnes.
Og þeir voru bara búnir að velja hvort annan fyrir lífstíð.
Et ce couple de cygnes s'était choisi pour la vie.
Og ég spurði hvernig fara svona dýr með svona lítinn heila því að ákveða að vera saman fyrir lífstíð.
Et je demandais encore une fois autour de moi mais comment c'est possible que des oiseaux avec un tout petit cerveau comme ça soient capables de choisir un autre enfin un de leurs congénères pour leur vie entière.
Þannig að hugsa kannski þetta líka í þessum bylgjum.
Et je me suis dit que peut-être que ce choix reposait en fait sur les mêmes ondes ou d'autres ondes d'ailleurs, mais ces ondes.
Kannski bara passa þær saman bara líffræðilega.
Peut-être que simplement ces deux oiseaux se complétaient ou simplement allaient bien ensemble d'un point de vue purement biologique.
Þannig að í Lovestar þá fyrirtækið búið að átta sig á því að við vorum manneskjurnar eru líka tengdar við þessa bylgjur og það gildir að sama okkur eins og fuglana.
Dans le livre Lovestar, en fait, l'entreprise qui s'appelle aussi Lovestar a compris que l'être humain peut se servir de ces ondes.
Þannig að það geta fundið raunverulega hina manneskjuna sem að passar við mann.
Et donc, avec In Love, on peut découvrir la personne qui correspond parfaitement à chaque autre personne.
Þannig passað að sami maður myndi valda fjarskiptabyltingu í heiminum. Þannig passað að í sögunni að sami uppfinningamaður að sami fyrirtæki með fjarskiptabyltinguna en fer síðan dýpra í bylgjurnar og finnur ástina.
Et donc cette entreprise qui est décrite dans le livre, qui est à l'origine des découvertes sur les ondes, plus elle recherche, enfin plus elle procède à des recherches, plus elle découvre de choses, dont cette chose-là.
D'accord.
Trouver l'âme sœur par les ondes.
Ok.
Et les calculs.
Mais quand même bien guidée par finalement l'entreprise de Love Star.
Já, fyrirtæki hans og þetta líka, Love Star líka ákveðin svona hugmynd hugmyndir
Love Star c'est aussi une idée sur les idées ou une conception sur les idées
Það sé að góðsagnir okkar tíma Steve Jobs, Elon Musk
Les figures mythiques de notre temps les gens comme Steve Jobs et Elon Musk
Þeir eru ekki manneskjur
En fait, d'une certaine manière, on peut dire que ce ne sont pas des êtres humains.
Heldur eru þeir eitthvað svona bara hylki til að koma hugmyndum í heiminn.
Mais plutôt des enveloppes corporelles qui contiennent tout un tas d'idées et d'idées qui doivent arriver dans le monde.
Það má segja þeir fórni manneskinni fyrir hugmyndina.
On peut dire en fait que ces personnes-là sacrifient leur propre être aux idées.
Og það eins og hugmyndir séu eitthvað svona eitthvað fyrirbæri sem að tekur okkur yfir og notar okkur til að koma sér í heiminn.
Un peu comme si les idées étaient une forme étaient un phénomène qui s'empare de nous, qui prend possession de notre âme et de notre corps et qui utilise notre âme et notre corps pour arriver dans le monde.
Þannig að þetta líka einhvers konar tragedía bókin parodía, tragedía mann sem að fórnar öllu til að koma sem hugmyndum í heiminn en, já
et c'est-à-dire que ce livre est aussi donc d'une certaine manière à la fois une tragédie et une parodie qui vous raconte l'histoire d'un homme qui sacrifie tout
já, sem fórnar öllu
að þegar þú fórnar öllu til að koma hugmyndunum í heiminn
voilà, qui sacrifie tout donc sa vie sa vie privée aussi pour faire avancer ou faire arriver des idées dans le monde mettre en pratique.
Ef þú lest til dæmis ævisögu Steve Jobs, þá eru öll samskipti hans ónýtt við konuna, við börnin sín, við vinnufélaga. Það er eiginlega öll samskipti hans eru eiginlega bara ónýtt vegna þess að hans eina markmið var að koma hugmyndinni í heiminn.
Si vous lisez la biographie de Steve Jobs, par exemple, vous vous rendez compte que tous les rapports humains, les rapports de nature humaine qu'il a avec les gens, sont complètement détruits. Il n'a pas de bons rapports avec ses enfants, avec sa femme, avec ses collègues, tout simplement parce que son seul but, c'est de mettre en pratique ses idées dans le monde, de faire avancer ses idées dans le monde.
Vel, viljum við þetta frekar heldur en að vera bara manneskjur.
Et en fait, moi je me suis interrogé sur ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on veut ça plutôt que simplement d'être des êtres humains?
Alors, c'est vrai que moi j'ai retrouvé Steve Jobs, Bill Gates par exemple, dans ce personnage évidemment de Love Star. Et je me suis dit qu'en fait... Ce ne sont pas des scientifiques, ce sont des gens qui portent une idée, donc soit une idée par exemple qui va révolutionner les communications, l'informatique, et pourtant, leurs idées changent absolument donc tout notre quotidien sur toute la planète. Voilà.
Oui,
c'était juste une remarque. Alors, on va quitter Love Star parce que il faut savoir que André Magnusson fut aussi l'an dernier candidat aux élections présidentielles en Islande. Donc, yeah. Voilà, ma question était, pour revenir un petit peu à votre vie, comment passe-t-on de la création littéraire à la politique ou au moins à un engagement citoyen?
En fait, les conditions, disons qu'en Islande, il y avait des conditions assez particulières. Le président islandais n'a pas autant de pouvoir que le premier ministre. Et il n'est pas politique. Pas autant politique.
En getur, svona, sett hluti á dagskrá.
Mais il a quand même le pouvoir de, disons, de mettre certains sujets au programme. On va dire.
Og á Íslandi akkurat núna og á síðustu árum þá eigum við mjög fallega stjórnarskrá sem er búið til.
Et en Islande depuis quelques années, on a une très belle constitution qui a été écrite par les citoyens.
Sem var svona sköpuð úr grasrótinni eftir krísuna.
Et qui a été rédigé juste après en fait la crise, enfin l'effondrement de l'économie en 2008.
Oui. Ouais.
Mais disons que ce qu'on pourrait appeler les forces conservatrices ont essayé de d'empêcher cette constitution d'être d'être appliquée. Et on a aussi en Islande une très belle nature. Et on a une occasion vraiment unique qui serait de créer un grand parc naturel absolument magnifique.
Sur toute l'Islande, donc, sur toute la...
On va dire quand même 40%, pas toute l'Islande, mais 40% de l'Islande, ouais.
Og svo eru jöklarnir að bráðna á Íslandi.
En Islande aussi, les glaciers sont en train de fondre.
Þannig að jöklar sem að hafa verið í þúsund ár breyst frekar lítið.
Des glaciers qui existent depuis 1000 ans et qui ont assez peu changé pendant 1000 ans.
Munu hverfa á næstu 100 árum.
Vont disparaître dans les 100 ans qui viennent.
Þannig að náttúran er hætt að hreyfast á jarðfræðilegum skala, hún er farin að hreyfast á mannlegum skala.
Et on peut dire que d'une certaine manière, la nature a arrêté de changer d'un point de vue géologique, pour l'Islande en tout cas, mais qu'elle est en train de changer d'un point de vue humain, c'est-à-dire qu'on a un changement opéré par l'être humain.
Þannig að það er hægt að nota svona embætti til að Íslendingar eru í aðstöðu til þess að vekja athygli á hvað er að gerast í heiminum.
Et je pense que c'est la fonction de président d'Islande permet justement peut-être d'attirer l'attention sur ce qui est en train de se passer en Islande et aussi ailleurs dans le monde, d'un point de vue environnemental.
D'accord, ce qui permet de relier finalement votre engagement littéraire avec votre engagement environnemental, citoyen.
Já, það svona, það kemur eiginlega í kjölfærið á því að skrifa að maður hugsar á ég bara að reyna að hreyfa hlutum með því að skrifa þá eða á ég að reyna bara bera ábyrðina alveg sjálfur.
Oui, évidemment, c'est lié, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que je vais essayer de faire bouger les choses simplement en écrivant des livres, ou bien est-ce que je vais peut-être essayer de m'impliquer plus dans la société et de faire bouger les choses dans la société.
D'accord. Alors, André, on va vous poser une dernière question parce que je sais que vous devez partir juste après. Quels sont vos projets ? Est-ce que vous pensez écrire un autre roman ? Donc, je le souhaite pour les lecteurs que nous sommes. Mais vous pouvez avoir un engagement tout en écrivant un autre roman.
Bon, je pense que je ne deviendrai pas président. J'ai toujours trahi mes lecteurs. Quand les poèmes de supermarché ont eu un succès en Islande, je me suis mis à écrire un livre pour enfants.
Og þegar barnabókin gekk vel, þá skrifaði ég vísindaskáldsögu sem börn skilja ekki.
Quand ce livre pour enfants a connu un succès, je me suis mis à écrire un roman de science-fiction que les enfants ne comprennent pas.
Et quand
ce livre-là de science-fiction, donc Love Star, s'est mis à bien se vendre, enfin avoir du succès en Islande, j'ai écrit de la non-fiction, c'est-à-dire du document, on va dire du documentaire, pour simplifier.
Ég búin með eina bók sem svona blanda af fantasy og sci-fi.
J'ai écrit aussi un livre qui est un mélange de fantasy ou fantasy et de science-fiction.
Oui, mais qui n'est pas encore traduit en français.
Ekki þýtt á frönsku, nei.
Non, il n'est pas encore traduit en français. Mais il est sorti au Japon.
D'accord.
Ouais.
Bon, donc ce serait peut-être bien de trouver une maison d'édition qui vous traduise donc en français.
Hein.
Oui, ça serait pas mal.
Bon. Alors, nous allons remercier Andri parce que je sais qu'il a un train ou un avion. Hein,
on a
c'est
un
ça
train à 16h23.
Voilà,
et il a
oui,
un
oui,
avion
oui,
qui, il faut... s'il loupe le train, il loupe l'avion.
Voilà, donc il faut absolument que... donc qu'il parte. En tout cas, merci évidemment de nous avoir écoutés. Merci à Andri de nous avoir donné ses clés vraiment sur son œuvre et puis cette œuvre très diverse. La poésie, le roman, le documentaire, le livre, les livres pour les enfants. Donc nous attendons avec impatience vos nouvelles aventures, Andri, et bon retour en Islande.
Voilà.
Et un immense merci à Eric, parce que c'est vraiment, je pense, relativement difficile la traduction.